Réplique, l'esprit de la Ve République avec Jean-Claude Casanova et Philippe Reynaud. Le 23 avril 2017 est un double 21 avril. Les candidats des deux grands partis de gouvernement ont été éliminés au premier tour de l'élection présidentielle. Comme l'a écrit Pascal Horry, cet événement constitue une date capitale dans l'histoire de la Ve République. Celle-ci a été fondée en 1958, pour installer, après des années d'instabilité gouvernementale, un pouvoir exécutif fort. Mais nul ne sait si le prochain président de la République pourra disposer d'une majorité parlementaire cohérente. D'où la question que je voudrais poser à mes deux invités, le philosophe Philippe Reynaud, qui publie « L'esprit de la Ve République » et Jean-Claude Casanova, le directeur de la revue Commentaire. L'heure des coalitions changeantes est-elle revenue? Le pouvoir va-t-il trouver à nouveau son assise dans l'accord provisoire d'une pluralité de partis? Bref, la Ve République est-elle à bout de souffle et vivons-nous une crise de régime? Philippe Reynaud.
Je dirais qu'il est trop tôt pour parler d'une crise de régime. Il est trop tôt pour parler d'une crise de régime parce que ce qui est remarquable pour l'instant, c'est que les acteurs politiques ont réussi d'autant mieux leur passage dans le premier tour qu'ils ont davantage obéi à la logique de la Ve République telle qu'elle fonctionne depuis 65, c'est-à-dire organisée autour de l'élection présidentielle comme enjeu décisif. C'est vrai de Marine Le Pen, dont le projet n'aurait aucune crédibilité sans ça. C'est vrai d'Emmanuel Macron, qui a réussi à, enfin au moins la première étape d'une stratégie qui était déjà celle de François Bayrou, qui est de jouer sur cet aspect central de la Ve pour conquérir le pouvoir. Et inversement, l'échec de Benoît Hamon, par exemple, à mon avis, tient en large partie au fait qu'il faisait une campagne complètement décalée par rapport à ses choix. Donc je ne crois pas qu'on ait pour l'instant une crise de régime. On aura peut-être une crise de régime si on a une cohabitation directe, mais n'anticipons pas. Ce qu'il y a en revanche, c'est une crise du système partisan qui met en cause un aspect du système politique. Nous avons un système partisan qui est déterminé par deux choses, qui est déterminé par la loi électorale dominante, c'est-à-dire le scrutin majoritaire à deux tours, et par la façon dont ce système s'est restructuré à partir des années 80, en remplaçant l'ancienne configuration dans laquelle on avait le Parti communiste et le Parti socialiste d'un côté, le RPR et l'UDF ou leurs équivalents de l'autre, sur fond d'une opposition apparente radicale entre la droite et la gauche. Ce qui se passe dans les années 80, qui est rendu possible par l'affaiblissement du Parti communiste et par l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'est le fait que ce système disparaît au bénéfice d'une configuration qui est apparemment beaucoup plus consensuelle, puisqu'on a cette fois-ci deux ensembles qui sont nettement dominés par un grand parti, qui sont plus des ensembles bipartisans, et dans lequel il y a de fait un consensus assez large entre les deux grands partis de gouvernement sur trois choses qui sont, me semble-t-il, l'économie de marché, le maintien d'un État-providence assez fort et l'acceptation de la logique européenne, y compris comme moyen rhétorique pour faire passer un certain nombre de réformes. Ce système est apparemment plus consensuel consensuel, et il souffre en fait assez vite d'un déficit paradoxal, c'est que ce système est moins inclusif que le précédent. Ça se manifeste avec l'abstention, ça se manifeste ensuite avec l'apparition du Front National, qu'on n'arrivera jamais à faire disparaître, et avec la renaissance périodique de courants d'extrême-gauche qui sont à la gauche de ce qu'était le Parti communiste. C'est moins important. Alors, ce système se maintient, à mon avis, jusqu'aux dernières élections, c'est-à-dire se maintient tant que la vie politique se déroule entre la droite et la gauche, et ce qui veut dire que ça se maintient tant que le Front National n'est pas en permanence de manière à perturber le fonctionnement du système politique. À partir du moment qu'on peut dater des dernières élections régionales, où il est clair que le Front National sera très probablement au deuxième tour de la présidentielle, le système éclate, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors ça ouvre sur une recomposition qui va donner, pour parler le langage de ma profession, un nouveau réalignement électoral, dont on ne sait pas encore où il va aller, qui est en cours actuellement, et qui très probablement va aboutir à un système partisan beaucoup plus éclaté. Alors, est-ce qu'il y aura la possibilité là-dedans d'avoir, parce qu'on aura des majorités moins stables, d'avoir des gouvernements de coalition? Je ne l'exclus pas. Est-ce que des gouvernements de coalition variables, je ne l'exclus pas. Est-ce que c'est la mort de la Ve République? Je ne dirais pas nécessairement, parce que l'élection présidentielle reste importante, parce que c'est quand même lui qui est beaucoup plus que le candidat du deuxième tour de M. Macron, qui sera beaucoup plus encore le maître de l'horloge, notamment parce qu'il dispose du droit de dissolution, qu'il a un pouvoir beaucoup plus considérable de toute manière que le président de la 4e République. Donc je crois qu'il, pour parler comme Mark Twain, la nouvelle de la mort de la 5e République est prématurée.
Je suis du même avis que Philippe. Mort de la 5e République ou crise de régime, je n'y crois pas du tout. Il y a une période de tension difficile, mais il s'en est déjà produit. En 62, les trois partis qui avaient gouverné la France depuis 30 ans ont brusquement disparu de l'horizon politique. Le MRP, le Parti Socialiste et les Indépendants. En 67, De Gaulle et 68, De Gaulle s'est trouvé en situation difficile. Ensuite, il y a eu des périodes de cohabitation qui n'avaient pas été prévues. Un des rapporteurs de la Constitution de 1958 avait dit « Il est incroyable de penser qu'il puisse y avoir contradiction entre le président de la République et le Premier ministre ». Donc le régime est souple d'une certaine façon. Et même il va arriver à son point le plus élevé de souplesse, puisque disparaissent, il était arrivé que le Parti Socialiste, la gauche, ne soit pas au deuxième tour. Il était arrivé que le Parti Gaulliste ne soit pas au deuxième tour. Ça s'est produit en 1974. Ça, ni le Parti Gaulliste ni le Parti Socialiste ne sont au deuxième tour, et donc il y a une forme nouvelle. Mais la forme nouvelle, elle prouve la souplesse du système. C'est-à-dire que si Macron se trouve au deuxième tour, c'est parce que le candidat socialiste était très faible, et parce que d'une certaine façon, le candidat du Parti Gaulliste s'est trouvé affaibli en raison de ses démêlés judiciaires. Et donc, il y a eu l'irruption du centre, disons, pour simplifier, comme ça s'était produit avec Giscard, ou comme avait tenté de le faire, chacun à leur façon, Bayrou, Barre ou Balladur. Alors, le changement, ça, comme Philippe, je pense que c'est encore incertain, c'est que dans les commentateurs de la Ve République, il y a depuis l'origine l'idée que la Ve République va introduire en France un bipartisme à l'anglaise. D'abord, l'Angleterre n'est pas aussi bipartiste qu'on dit. Il y a eu beaucoup de gouvernements anglais ont été des gouvernements de coalition. Mais l'émiettement électoral français est accentué, évidemment, par le développement de l'extrême droite et même, d'une certaine façon, par une renaissance de la gauche radicale. Le Parti communiste avait quasiment disparu, mais Mélenchon a recréé un pôle radical, et donc il y a au fond quatre formations politiques désormais en France, si vous voulez, peut-être même cinq, et nous ne savons pas très bien quels équilibres vont s'établir. Ça va beaucoup dépendre des campagnes électorales et du mode de scrutin.
Alors justement, du mode de scrutin, c'est-à-dire, il y avait cet espoir de créer un système bipartisan en France, sur le modèle anglais, dites-vous Jean-Claude Casanova. Aujourd'hui, la vie politique se structure autrement. En effet, avec cette gauche radicale, un parti populiste, disons, très durablement installé dans le paysage, un parti socialiste en mauvais état, et la droite républicaine classique. Faut-il songer dès lors, à votre avis, pour que ça fonctionne, à changer le mode de scrutin? Faut-il passer à la proportionnelle ou à une dose de proportionnelle? Et dans ce cas, que restera-t-il de la Ve République, puisque vous le dites très bien, Philippe Reynaud, à plusieurs reprises dans votre livre, le mode de scrutin majoritaire à deux tours a été choisi parce qu'il permettait de constituer des majorités cohérentes et laissait aux électeurs le choix décisif, là où la proportionnelle conférait aux appareils des partis la désignation des candidats et leur permettait de former des alliances après que les électeurs ont voté et donc indépendamment de leurs intentions. Peut-être que le nouveau paysage impose la proportionnelle, mais que restera-t-il de la Ve République si on sort du scrutin majoritaire à deux tours? Philippe Reynaud.
Je pense que le scrutin majoritaire à deux tours fonctionne si et seulement si il contraint tous les partis importants et il leur permet d'entrer dans un système d'alliance. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a au moins un parti, qui est le Front National, qui ne peut pas et qui surtout ne veut pas entrer dans un système d'alliance parce qu'il a, il a un projet qui est de nature différente. Et ce qui d'ailleurs paraît nouveau avec M. Mélenchon, c'est qu'on a quelque chose d'assez semblable. Mélenchon a éliminé les trotskistes en remplaçant la perspective électorale par en remplaçant la perspective insurrectionnelle par la perspective électorale, mais il refuse la logique du nom de la gauche, qui est la principale raison de son désaccord avec les communistes. Bon, on a donc deux partis qui sont importants, qui ne veulent pas entrer dans un système d'alliance, mais qui ont un pouvoir, je dis ça sans... de manière neutre, si vous voulez, un pouvoir de nuisance considérable sur le système. Donc, moi, le pari que je prends, c'est que le système majoritaire à deux tours n'est tout simplement plus viable. Personne ne songe raisonnablement non plus à instituer un scrutin à l'anglaise, qui avait été d'ailleurs écarté, bien que Michel Debré ait eu une certaine sympathie pour lui, parce que tout le monde pensait que, dans certaines conjonctures astrales, ça aurait pu amener le Parti communiste au pouvoir. Donc, c'est encore plus exclu que le maintien du système. Donc, moi, je veux bien que l'introduction d'une dose plus ou moins importante de proportionnelle présente un certain nombre d'inconvénients, mais j'aimerais qu'on m'explique comment on va pouvoir l'éviter. Alors, je pense qu'on va pouvoir... Il y aura peut-être un essai pour l'éviter de la part d'Emmanuel Macron, qui est une figure, à mon avis, beaucoup plus gaullienne et gaulliste qu'on ne le croit, et qui peut-être est en train d'espérer qu'à partir de En Marche, il pourra reconstituer quelque chose d'équivalent à ce qu'était l'UNR, c'est-à-dire quelque chose qui prétendait ne pas être un parti, mais un rassemblement, et qui supposait une base assez large, qui avait une base assez large pour pouvoir gouverner pendant un certain temps. Mais premièrement, tout le monde sait que, malgré la délégation gaulliste, pour finir, l'UNR et le RPA sont devenus des partis. Et d'autre part, la base de départ, me semble-t-il, de M. Macron, et pas tout à quelles que soient ses qualités par ailleurs, n'est pas tout à fait celle dont disposait le général de Gaulle en 1958. Donc, on peut trouver ça fâcheux, si vous voulez, cette évolution, mais je vois mal à moyen terme comment elle pourrait être évitée. Alors, est-ce que c'est la fin de la Ve République ? Je répète que non, pour ma part, parce que je pense que, quoi qu'il en soit, le président ne sera pas un pur... ne sera pas un pur monarque constitutionnel à l'anglaise. Son élection restera un enjeu politique. Il se présentera avec une certaine orientation. Et tant qu'il dispose et qu'il use du droit de dissolution, il a quand même un moyen de pression dont ne disposait pas le regretté Vincent Auriol, qui avait plein de qualités par ailleurs.
Oui, je crois, si vous voulez, le mode de scrutin actuel d'arrondissement à deux tours, il a parfaitement fonctionné sous la Troisième République, et il n'est pas, à mon avis, la cause des crises ministérielles. Les crises ministérielles venaient, en fait, de la disparition du droit de dissolution et du mécanisme intraparlementaire de renouvellement des gouvernements. Mais il fonctionnait de quelle façon? C'est-à-dire que, ou bien il y avait une coalition de gauche ou de droite qui fonctionnait, parce qu'elle avait la majorité au Parlement, et si elle devenait trop hétérogène, c'est-à-dire si, par exemple, le Front Populaire, 1936, il y a une coalition radicaux-socialiste-communiste, les communistes ne participent pas, le gouvernement est composé de radicaux et de socialistes. 1938, il tombe, parce que les radicaux désapprouvent la politique économique du gouvernement, qui a d'ailleurs échoué entre 36 et 38, et il se produit une concentration, c'est-à-dire que la majorité est une majorité qui est pour partie de gauche avec les radicaux et pour partie de centre-droit. Et donc le système fonctionnait avec des alternances de majorité à gauche ou de majorité à droite, ou de ce qu'on appelait la concentration. Si on change la faiblesse, à mon avis, de la Ve République, est venue du fait, curieusement d'ailleurs, puisque dans l'idée du général de Gaulle, il y avait de façon centrale le renforcement de l'exécutif, sans doute parce qu'il pensait surtout à la politique étrangère. Mais si on regarde la France depuis 25 ans, son exécutif est devenu relativement faible. La France met beaucoup plus de temps que tous les autres pays européens à résoudre le problème des retraites ou à gérer convenablement la sécurité sociale, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse de l'exécutif, et cette faiblesse de l'exécutif est, je crois, en partie liée à la faiblesse des majorités. Et donc, si je suis partisan d'un système à l'allemande, c'est-à-dire qui mélange la proportionnelle et le majoritaire, c'est dans l'idée de donner à l'exécutif une base parlementaire et une base dans le pays plus large que celle qu'elle a aujourd'hui.
Oui, mais alors ça supposerait, à partir de la proportionnelle, des coalitions.
Des coalitions, oui, bien sûr. Mais la coalition ne crée pas l'instabilité, comme le prouve le gouvernement de la Suisse, de l'Allemagne, de la Suède, etc. Il n'y a jamais eu de crise ministérielle.
Oui, mais en France, alors là, je vais affirmer, parce qu'on va venir à l'esprit du fondateur. En France, il crée la Ve République pour sortir de l'instabilité, et le diagnostic du général de Gaulle, si je me trompe, c'est que précisément les coalitions créent cette instabilité et qu'il fallait en sortir. Alors, quelle était, Philippe Reynaud, son intention originelle, et dans quelle mesure le général de Gaulle a-t-il réussi ?
Son intention originelle est de créer, me semble-t-il, un régime vraiment nouveau qui devait quand même résoudre le problème créé par la fracture de la Révolution française, disons reconstituer l'État comme organe de la nation, etc. Il y a un projet qui est très cohérent, qui a une certaine grandeur et qui suppose une rupture partielle avec ce qu'on appelle la tradition républicaine jusqu'aux années 60, c'est-à-dire la tradition, disons, de ce qu'on appelle parfois le parlementarisme absolu, c'est-à-dire un régime qui poussait la prédominance du Parlement beaucoup plus loin que l'Angleterre, du fait notamment de l'absence de mécanismes comme la dissolution et aussi l'absence des mécanismes du parlementarisme à rationaliser.
Pourquoi pouvait-on parler de parlementarisme absolu? Je vais poser une question naïve et à la lisière de la stupidité. Vous avez un gouvernement, c'est donc pas le Parlement qui gouverne. Et pourquoi peut-on parler de parlementarisme absolu alors même qu'il y a un gouvernement? Le pouvoir n'est pas exclusivement législatif.
Il y a un gouvernement, mais si vous voulez, il y a des gouvernements qui sont faibles. Il y a un gouvernement dans lequel le Premier ministre est responsable mais n'a pas le droit de dissolution. C'est quand même une grande différence avec l'Angleterre, et d'autre part c'est le parlementarisme absolu dans la mesure aussi où l'idée c'est que la loi expression de la volonté générale permet ce qu'on a, les juristes appellent l'état légal, c'est-à-dire le contrôle de l'égalité des actes administratifs, mais interdit, d'ailleurs comme c'est le cas également en Angleterre, le contrôle de constitutionnalité. Bon, ce qu'on voit très bien dans la Ve République, c'est qu'il y a un changement systémique très, très cohérent, d'ailleurs, dans lequel on réduit les pouvoirs du Parlement par rapport à l'exécutif, dans lequel on ouvre avec l'usage du référendum, qui est quelque chose qui relativise également l'importance de la représentation, et on rend possible le contrôle de constitutionnalité, au départ avec l'intention de limiter les prétentions de l'exécutif, c'est le chien de garde de l'exécutif, mais avec une logique qui va se déployer quand même assez vite et qui implique une transformation dans un sens de primat général de la Constitution. Donc c'est un changement cohérent dont De Gaulle ne voulait sans doute pas tous les aspects qui se sont produits, parce que lui, me semble-t-il, est dans une vision très différente dans laquelle il y a un niveau politique fondamental, si vous voulez, qui devrait être représenté par le chef de l'État, qui pour cela ne peut pas se confondre avec le chef du gouvernement, mais qui doit intervenir dans la politique réelle. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs de l'imaginaire monarchique français, dans ce qui le distingue des autres, et auquel d'ailleurs pas mal de gens sont attachés, puisque M. Macron est très attaché à cet aspect de la tradition politique française, à l'aspect monarchique. De l'exécutif français, qui est quelque chose qui à quoi il est sensible.
Qui correspond aussi à la formule de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire il faut que la démocratie s'incarne dans un homme.
Oui, s'incarne dans un homme, mais avec le fait qui est subtil, c'est que je crois qu'on a tort d'exagérer, on exagère le bonapartisme de Gaulle, parce que dans le fond, constitutionnellement, le régime est à beaucoup d'égards orléaniste. Parce que cette dualité des deux têtes de l'exécutif, c'est l'héritage et c'est schématiquement. Alors tout ça est très loin de nous, mais alors sur les partis justement, si vous voulez, la grande idée de Gaulle, c'était que le régime de la Quatrième République était fâcheux parce que c'était le régime des partis. Alors par ailleurs, il n'a pas du tout un objectif de société politiquement homogène, etc. Ça n'est pas un ennemi du pluralisme, mais il pense que ce qu'il faut. Ce à quoi il faut faire une place, c'est en langage barésien la diversité des familles spirituelles
de la France,
qui doivent jouer un rôle dans la politique, mais qui doivent être absentes du rôle politique central. Je crois que là, c'est quelque chose qui tombe à partir de sa grande réforme de 62. La grande réforme de 62, l'élection du président de la République au suffrage universel, il est conscient d'ailleurs du risque que le président sera l'homme d'un parti. Et là, si vous voulez, là, si on veut maintenir cette orthodoxie, on entre quand même dans un récit dans lequel le déclin de la Ve République commence en 62, et d'ailleurs même avant, c'est déjà pas très clair. Ça me rappelle ce que disait un grand professeur de droit, d'histoire du droit dans mon université, qui disait, vous savez, Rome après la Deuxième Guerre punique, c'est plus ça. Ben là, la Ve République après 62, c'est plus ça.
En même temps, il y a une chose très intéressante dans votre livre, Philippe Reynaud. Vous dites que ce qui définit la version que De Gaulle donne de la croissance nécessaire du pouvoir exécutif, c'est la place accordée à l'expérience de la guerre, oui, dont tout le XXe siècle a montré, contre les courants optimistes du siècle précédent, qu'elle demeurait une dimension permanente de l'expérience historique moderne. Donc, un pouvoir exécutif fort, parce que, précisément, le risque de la guerre existe. Donc,
voilà. Oui, parce que l'épée reste l'axe du monde.
Mais
ce qui est intéressant, c'est de voir que chez lui, cette idée que le chef de l'État, c'est en dernière analyse, le chef des armées, celui qui a, c'est contrebalancé par quelque chose de très fort également, qui est qu'on voit dans son premier livre important, La défaite chez l'ennemi, qui est la critique très aiguë du militarisme prussien. C'est pas du tout une logique de gouvernement militaire. C'est l'idée qu'il doit y avoir quelque chose qui protège le cadre national et dans lequel la vie sera essentiellement une vie civile. Et on rencontre d'ailleurs, c'est d'ailleurs là tout le problème du pouvoir exécutif au XXe siècle. C'est que c'est le produit de deux phénomènes distincts, c'est-à-dire le maintien du problème militaire, de la sécurité, etc., et puis d'autre part le développement de la société industrielle au sens d'Auguste Comte, c'est-à-dire de la croissance indéfinie, de nouveaux besoins, etc. C'est la combinaison des deux, et que d'ailleurs à mes yeux la première période de la Ve République avait quand même assez bien réussi.
Oui, je crois que chez De Gaulle, il y a a quand même l'idée, que je ne partage pas, c'est l'idée de la monarchie, c'est-à-dire l'idée maurrassienne qu'en gros, l'unité de l'exécutif en une personne est une garantie de continuité, de clairvoyance et de stabilité. Et j'en doute un tout petit peu, si vous voulez, parce que historiquement, les oligarchies, quand l'Angleterre se définissant parfaitement par l'oligarchie, les oligarchies ont eu de très grandes politiques étrangères avec beaucoup plus de continuité, d'une certaine façon, que les monarchies au sens maurrassien, c'est-à-dire le gouvernement d'un homme. Et De Gaulle, par-dessus le marché, ne cherchait pas le parti unique. Il a été, d'une certaine façon, sur le parti majoritaire. Il a été surpris par la victoire de 62. C'est pas lui qui l'a organisé, c'est Frey qui l'a admirablement organisé en jouant sur ce qu'a fait ensuite Mitterrand, c'est-à-dire la gauche ne peut pas s'unir parce que le Parti communiste est hétérogène, donc la droite va gagner les élections et ça a fonctionné jusqu'à 67. Et De Gaulle rêve au fond d'un pouvoir exécutif assurant la continuité, ayant une légitimité, et là c'est bonapartiste, ayant une légitimité par le suffrage universel. L'acceptation du référendum et du suffrage universel, c'est fondamentalement bonapartiste par rapport, disons, à la monarchie héréditaire. Et il accepte ça, et je crois que malgré tout, ça n'a pas donné à la France l'exécutif dont elle a besoin. Je trouve que, quand même, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire que la Troisième République offre un exécutif fort, alors qu'elle a donné, par exemple, le spectacle absolument insolite dans n'importe quel manuel de droit constitutionnel de la réforme Villepin, c'est-à-dire qu'on vote une loi, le CPE, qui est une loi raisonnable d'ailleurs, qui permet d'augmenter l'emploi des jeunes et des non-qualifiés. Le Parlement la vote, le Conseil constitutionnel l'approuve, le président la ratifie, et tout de suite après on la supprime parce qu'il y a eu des manifestations.
C'est le président lui-même qui dit, je crois qu'elle ne sera pas appliquée au moment même où il l'adopte.
Pourquoi se donner un exécutif aussi fort alors que c'est le manifestant qui est devenu le législateur principal?
Et en plus, le Premier ministre ne démissionne pas. Alors que c'était sa grande affaire. Enfin,
vous dites d'ailleurs dans votre livre « L'esprit de la Ve République », Philippe Reynaud, que Chirac, c'est la conclusion du chapitre assez sévère que vous lui consacrez, a été le fossoyeur du chiracisme, entendu comme tentative de restauration du volontarisme en politique. Oui. Donc, évidemment, et c'est le grand paradoxe auquel nous sommes confrontés, il s'agissait, avec la Ve République, de restaurer un pouvoir exécutif fort, et de ce pouvoir, on ne cesse de diagnostiquer les faiblesses, d'où d'ailleurs la montée de l'insatisfaction des citoyens, qui se disent un pouvoir qui a de moins en moins de marge de manœuvre, et ça crée une défiance à l'égard des élites politiques dont on voit les effets. Alors comment expliquer ce paradoxe, Philippe Reynaud?
Moi je crois que ça s'explique aussi par le mécanisme de l'élection présidentielle, qui, comme il n'est pas à la portée de tout le monde d'être le général de Gaulle, la tendance des candidats, c'est quand même de restaurer un fantôme de rhétorique gaulliste au nom du fait que, à partir du pouvoir présidentiel combiné avec la volonté politique, on va faire des merveilles qu'on ne ferait pas autrement. Et c'est exactement la tentative, d'ailleurs, techniquement très bien conduite de Chirac en 95 qui a gagné sur ce plan-là. Alors je crois que il y a quelque chose dans notre système politique qui, me semble-t-il, augmente les attentes des gens à partir de l'alternance politique, alors que la réussite des réformes nécessitait très probablement davantage de prudence dans la négociation. Et je trouve d'ailleurs que si on prend les élections présidentielles depuis, disons, 81, sans vouloir offenser personne, il y a quand même très souvent une prime à la démagogie dans l'élection présidentielle française. Et ce qui est même curieux, d'ailleurs, c'est que l'élection présidentielle est supposée devoir combler des attentes qui n'étaient pas là. Alors le dernier exemple le plus frappant, c'est le président sortant, Monsieur Hollande, dont tout le monde dit qu'il a trahi ses promesses, les attentes, etc. Or, Ce qu'on voit très bien si on fait une analyse des scrutins, qui avait été faite dans un excellent volume du CEVIPOF, l'élection de Hollande se fait dans un contexte où les gens attendent très peu. Il n'y a pas de désir de socialisme, il y a une préférence qu'on peut estimer fâcheuse ou raisonnable des électeurs pour M. Hollande plutôt que pour M. Sarkozy, mais Hollande est poussé par la logique présidentielle à faire un grand discours où il dit que son ennemi c'est la finance, et accepter une proposition de réforme inspirée par M. Mélenchon, qui va d'ailleurs abandonner assez vite, et tout le récit ultérieur va nous dire que c'est la déception tragique des électeurs devant les promesses non tenues qui est à l'origine de tous nos malheurs. Je pense que l'origine de tous nos malheurs, c'est une certaine impuissance publique, mais elle n'est pas là, mais elle suscite ce fantôme, si vous voulez. C'est curieux.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Incontestablement, si vous voulez, il y a une illusion que crée l'élection présidentielle. Il y a le même phénomène aux États-Unis, mais c'est compensé aux États-Unis par l'extrême puissance du Congrès et le fédéralisme américain. C'est-à-dire que malgré tous ses défauts, Trump n'est pas toute l'Amérique. Le Congrès et les États comptent et déterminent librement leur choix.
Mais alors, je voudrais, sur cette faiblesse du pouvoir exécutif qui contrarie la volonté inaugurale du général de Gaulle, insister sur deux points. D'abord, en effet, le rôle de plus en plus important dévolu, et vous le racontez tout au long de votre récit, Philippe Renaud, au Conseil constitutionnel. Ce qui fait que certains ont pu parler de gouvernement des juges. Donc, il y avait le face-à-face du législatif et de l'exécutif. On sort du parlementarisme absolu. Et voici qu'une troisième composante se présente, le Conseil constitutionnel, un droit au-dessus des lois proposées par le gouvernement et votées par le Parlement. Et puis aussi, il y a l'Europe. C'est-à-dire que il est très difficile à un gouvernement aujourd'hui d'adopter une politique migratoire ferme. Or, Marcel Gauchet, entre autres, a écrit que, à partir de 1976, le regroupement familial, l'installation des populations immigrées est devenue irréversible. C'est une transformation fondamentale de la société qui présente la particularité intéressante d'avoir échappé de bout en bout au débat et à la décision démocratique. Mais on sent une certaine insécurité chez nos concitoyens. Bon, des promesses sont faites d'une maîtrise des flux migratoires par différents candidats, et pas simplement par la candidate de l'extrême droite. Mais ces promesses sont-elles tenables dès lors que le droit à une vie familiale normale, institué par le Conseil d'État en 1978, a été sanctuarisé par les institutions, les instances européennes? Donc, il y a le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, voici une question qui, en quelque sorte, obsède, tourmente, taraude la société française, où les politiques ont une marge de manœuvre extraordinairement réduite. C'est ce qui, évidemment, fait le succès du Front National, mais peut-être faut-il poser la question justement de l'adaptation des institutions à cette nouvelle situation. Comment faire pour redonner un peu de marge de manœuvre à ce pouvoir exécutif aujourd'hui en France ? Philippe Renaud.
Je crois que, bon, d'abord le Conseil constitutionnel est une juridiction un petit peu étrange, parce que c'est pas, qui est un peu à mi-chemin entre une logique politique et une logique proprement juridictionnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer son pouvoir. Il y a une logique, je dirais, des institutions judiciaires qui cherchent toujours à étendre leur pouvoir le plus loin possible, au détriment du législatif, au détriment de l'exécutif, et qui parviennent dans la mesure où les instances, l'exécutif ou législatif, sont dans des impasses, n'arrivent pas à prendre des décisions correctes. C'est ce qui a fait le développement du pouvoir de la Cour suprême aux États-Unis, c'est ce qui fait le développement de la Cour du Luxembourg à certains égards, c'est la faiblesse relative des États. Et je pense que ce développement, c'est en grande partie la contrepartie de la faiblesse de nos institutions, qui est liée à la faiblesse de nos partis politiques, de la clarté d'esprit. Je pense pas que les gouvernants sur ce sujet aient des idées aussi claires que vous semblez le créditer. Et alors, qui est une politique européenne qui va plutôt dans le sens du développement de l'immigration, c'est possible, c'est même probable. Mais ce que je dirais, c'est que l'Europe est un système qui a une certaine diversité interne et que ça évoluera avec l'évolution des opinions européennes. Moi, je suis persuadé, si vous voulez, qu'à terme, on aura des politiques plus restrictives sur l'ensemble de l'Europe parce que les opinions le feront sentir. C'est ce qui vient d'ailleurs de se produire dans les élections néerlandaises, où on a vu à la fois la défaite de Geert Wilders et le progrès d'un parti libéral de droite qui est plus dur sur ses positions que les choses antérieures. Je pense que ce genre de choses va se produire un petit peu partout. Et si la politique française n'est pas bloquée dans des affrontements rhétoriques entre les mondialistes et les patriotes ou entre la droite et la gauche, etc., je vois aucune raison pour qu'il n'y ait pas une évolution de ce genre en France. Je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y ait un obstacle métaphysique qui tiendrait à la nature de l'Union européenne.
Peut-être c'est-il quand même, Philippe Reynaud, un obstacle historique. Ce qu'on appelle le populisme est un phénomène, généralisé dans tous les pays européens.
Oui, mais pas seulement, le populisme, aux États-Unis aussi.
Même pas seulement, oui, tous les pays occidentaux. La France a une spécificité. Son parti populiste, si vous voulez, c'est un parti qui a été, et qui l'est peut-être encore, un parti d'extrême droite. Donc son origine pétainiste pèse sur lui. Et dès lors, on le voit, certaines des questions qu'il aborde sont très... Il est très difficile pour les autres partis de les traiter à leur tour, parce que ces partis, ces formations sont immédiatement accusés de faire le jeu du Front National et donc tombe sur eux l'accusation de contamination par le pétainisme. On le voit très bien. Et de manière générale, il faut poser aussi cette question sur le Front National. Vous dites que il faudra peut-être introduire un peu de proportionnel parce que ce parti est là pour s'installer, mais c'est très curieux. Il y aura un parti représenté au Parlement, autour duquel, de toute façon, il faudra en même temps établir un cordon sanitaire. C'est-à-dire, est-ce que cette situation peut éternellement durer? Y a-t-il moyen d'en sortir, ou est-ce que ça va constituer la spécificité française à l'intérieur de l'Europe, confrontée à la fois au problème de l'immigration et à la montée des populismes?
Comme vous le dites vous-même, nous avons un problème qui ne vient pas du Conseil constitutionnel, ou pas prioritairement, ni de l'Europe, mais qui vient de la structure de la politique française, qui est en effet, il y a ce que vous dites sur le fait que le Front National, d'ailleurs, a habilement capté une partie de la rhétorique gaulliste, etc., et il le fait avec une certaine habileté, qui n'est pas d'ailleurs extraordinaire, mais qui est facilitée par la niaiserie d'un certain nombre de réactions. Mais je pense que ça n'est pas dû à la Ve République, ça n'est pas dû à l'Europe, c'est dû à des particularités de la vie politique française. Et je ne crois pas, en tout cas, qu'une évolution du mode de scrutin aggraverait les choses. Parce que ce qui fait actuellement la puissance du Front National, c'est le fait que on est dans un système où il est un système partisan d'où il est exclu, mais comme ce système est majoritaire, la prétention du Front National, c'est potentiellement d'incarner la majorité, ce qui ne fait qu'augmenter, d'ailleurs, qu'amplifier la dramatisation des enjeux à chaque fois, et qui est d'ailleurs le piège dans lequel Mme Le Pen veut enfermer son concurrent actuellement. Je pense que si on a un système plus pluraliste, il y aura une décomposition du Front National, qui est un parti aussi hétérogène que les autres, et que les questions auxquelles vous accordez tant d'importance seraient mieux traitées dans un système plus pluraliste. C'est tout ce que je peux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles seront résolues.
Jean-Claude Casanova.
Il y a un problème général de la gestion des extrêmes en France, et qui tient au fait du manque de clairvoyance des partis politiques. Si le parti gaulliste avait pris clairement conscience du problème de l'immigration, il aurait évité le développement du Front National. Moi, je me souviens d'une conversation entre Georges Pompidou et Joseph Fontané, qui était son ministre de l'Éducation. Pompidou demande à Fontané de subventionner l'UNI, qui était la formation la plus à droite à l'intérieur du parti gaulliste. Et Fontané, un peu réticent, dit à Pompidou, c'est pas tout à fait nos idées. Et Pompidou lui répond, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des ennemis à droite. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand on est le parti de droite, il ne faut pas qu'il se crée à côté de vous un parti plus à droite que vous. Observez le parti conservateur anglais aujourd'hui, son objectif central est d'éliminer l'UKIP, c'est-à-dire de contrôler la gestion du problème, et au fond, il s'est rallié à la politique anti-européenne, il a pris en charge la politique anti-européenne et la lutte contre l'immigration. Et il y a eu la même chose à gauche. La mauvaise gestion par les socialistes de la question ouvrière au lendemain de la 14-18 a favorisé le développement du Parti communiste. Et donc, l'extrémisme, ce qui est assez différent du populisme, peut être géré par la capacité d'adaptation des partis aux problèmes que pose l'opinion. Si vous regardez le vote du Front National aujourd'hui en France, il est extraordinairement géographiquement limité et il correspond très exactement aux zones de forte immigration non européenne. Incontestablement, l'accroissement de l'hétérogénéité crée une tension.
Oui, mais précisément, c'est-à-dire que dans la mesure où le Front National s'est assuré une sorte de monopole sur la question de l'immigration, ou, comme dirait Laurent Bouvet et Christophe Guiluy, de l'insécurité culturelle, ça conduit une partie importante de la gauche, mais aussi de la droite modérée, celle de l'identité oui. heureuse, si vous voulez, à dire « il n'y a pas de problème de l'immigration en France, il n'y a qu'un problème de racisme ». C'est un parti d'origine fasciste et donc raciste qui traite de cette question. Donc, en parler, oui. c'est être contaminé par le monstre et c'est soi-même tomber dans le racisme. C'est un peu cela la spécificité française quand on le compare avec la situation aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme a été votée dans un calme total. Le Danemark a une politique migratoire extrêmement restrictive qui n'est pas, alors que il n'est pas gouverné par l'extrême droite. Donc on voit oui, quand même une spécificité française.
C'est lié au poids historique de la guerre, si vous voulez, très fortement en Allemagne et plus faiblement en France à cause du régime de Vichy et des absurdités des lois raciales de Vichy.
Des infamies. Mais oui, mais c'est pour ça, bon, c'est vous qui êtes le maître du temps, mais il me semble que nous écartons un peu du sujet. C'est-à-dire, c'est pas un problème de Ve République, ça, c'est non. un problème alors, de politique non, française.
Alors, revenons donc, vous avez raison, à la Ve République, mais justement, c'est toujours à la question que je me pose. Il s'agissait d'établir un pouvoir exécutif fort, et là, je vous réinterroge là-dessus, n'y a-t-il pas des limites aujourd'hui au pouvoir exécutif? Alors vous m'avez dit le Conseil constitutionnel, c'est pas si grave que ça, mais ne voit-on pas quand même prévaloir sans cesse le droit sur la loi. Vous avez dit l'Europe, oui, mais le rôle quand même de la Cour européenne des droits de l'homme est de plus en plus important aujourd'hui sur la question du voile dans les entreprises. Il a bien fallu attendre une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y aura un certain nombre de questions qui vont être traitées ainsi, et peut-être que même que sur un autre thème comme celui de la gestation pour autrui, peut-être que là aussi la marge de manœuvre du gouvernement français va être réduite, puisque on lui dira vous êtes obligé de reconnaître des enfants nés de cette manière-là, sinon c'est une transgression des droits de l'homme.
C'est le lot commun de toutes les démocraties actuelles et singulièrement des démocraties européennes. Simplement, il me semble qu'en France, nous rendons les problèmes plus difficiles à résoudre par l'ampleur dramatique ou tragique que nous leur donnons.
Mais est-ce que c'est pas alors là justement notre héritage gaullien? Nous disons voilà, De Gaulle, personnage charismatique, a voulu de redonner tout son lustre à la France. Au pouvoir exécutif en France, on se souvient d'un certain nombre de ses déclarations, « Vive le Québec libre », etc. C'est la raison pour laquelle j'ai du mal moi-même à imaginer Emmanuel Macron en président jupitérien ou gaullien, parce qu'il a fait quand même une conférence en anglais à l'université Humboldt de Berlin, il est entouré de helpers et de coworkers, on est quand même dans un autre monde. Mais enfin, c'est une petite parenthèse juste taquine. Simplement, voilà, est-ce qu'il y a aussi cette tradition française? Nous avons été tellement habitués à une certaine idée de l'exercice du pouvoir que nous avons peut-être plus de mal que d'autres à s'adapter à la normalisation européenne des choses. Philippe Reynaud.
Une petite remarque au passage. Quand le général de Gaulle se déplaçait à l'étranger, il faisait toujours une partie de son discours dans la langue du pays de l'étranger.
Eh oui, Emmanuel Macron se déplaçait en Allemagne à ce moment-là. Il aurait fait son discours en allemand que j'aurais été le plus français, très fier de ce futur candidat.
Totalement en allemand, Voilà.
Oui, c'est ça. Mais simplement, si vous voulez, si on dit « Vive l'Allemagne libre », ce que d'ailleurs De Gaulle a dit d'une certaine manière, dans les moments décisifs, ça conduira pas nécessairement à parler français. Enfin, je trouve que là il y a une évolution des choses, si vous voulez, qui s'impose à nous. Moi, je préférerais que les grandes revues scientifiques soient écrites en français plutôt qu'en anglais, mais il se trouve qu'elles le sont en anglais. Et c'est des affaires qui sont difficiles, où il ne faut pas avoir de servilité à l'égard de la modernité, mais
tout le monde pense que
il ne faut pas faire de zèle non plus, parce qu'on peut avoir des militants et pas forcément des helpers.
Tout le monde pense qu'il vaut mieux avoir un président de la République qui parle et qui comprend l'anglais, parce que les négociations internationales aujourd'hui se font en anglais, et que ça serait un handicap pour la France d'avoir un président de la République.
Oui, mais encore une fois, il ne faut pas faire de zèle. Le Comité olympique français ou la mairie de Paris ne sont pas obligés de choisir pour slogan des prochains Jeux Olympiques, Made for Sharing, c'était une pizza géante.
Mais on
a l'impression que les Français font un peu de zèle, peut-être nostalgique du général de Gaulle.
Mais ce que je dirais justement, c'est que là, ce qui est de l'époque où le français était la langue de l'Europe, c'était encore mieux. Mais je crois justement que un des problèmes français, alors comment est-il lié aux institutions de la Cinquième, c'est quand même une question difficile, c'est le fait qu'il y a il y a aujourd'hui une sorte de passion antinationale d'une partie des élites françaises qui est singulière. C'est un pays qui aime se dénigrer et c'est quelque chose qui est tout à fait fâcheux et dont je ne vois pas l'équivalent dans aucun pays d'Europe, en effet, aujourd'hui. Mais ça montre que nous sommes éloignés de l'imaginaire gaullien, ça c'est tout à fait certain. Mais je crois que l'invocation de ce passé ne suffira pas à le ressusciter, si vous voulez. Je trouve que c'est très... Tout ce que vous dites est... Enfin, presque tout ce que vous dites est vrai, et je partage votre tristesse, mais simplement... tout ne sera pas réglé par une élection présidentielle.
Non.
Et justement, l'erreur française, c'est quand même de croire ça, qu'il y aurait un moment fondateur où tout se remettrait en marche, etc., ou en état de marche pour éviter...
L'élection présidentielle au suffrage universel, qui est un des éléments clés de la Ve République, pose aussi des problèmes, parce qu'elle suscite peut-être des attentes immodérées. Le passage à la VIe République, je pense que nous serons d'accord pour dire qu'il n'est pas tout à fait d'actualité. Mais la question que je voudrais vous poser maintenant, quand l'émission touche à sa fin, est celle-ci. C'est-à-dire, nous, citoyens, dans le cadre de cette Ve République amendé avec le temps, passé du septennat au quinquennat pour éviter les cohabitations, etc. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'attendre de la politique et notamment du président de la République?
Je crois qu'il faut attendre de la politique, et ça correspond assez profondément à une tradition culturelle française, un degré de complexité plus élevé. Toutes les vieilles formules françaises, tenir les deux bouts de la chaîne, voir les deux aspects d'un problème, etc.
En même temps,
absolument. C'est au cœur de la politique. La sagesse politique, c'est de comprendre que tout n'est pas parfaitement cohérent et qu'il faut faire vivre ensemble. Je m'amuse un peu quand j'entends Macron dire la France se définit par l'universel, comme si Socrate et Jésus n'y étaient pour rien. Et la France se définit par l'universel et par le particulier. Et Ronan l'a expliqué très clairement. Et donc, oui. La France se définit à la fois par accepter les étrangers et réguler les migrations. Accepter le marché et équilibrer le marché. Faire de l'Europe et assurer la patrie française. Et pour toutes ces raisons, si vous voulez, la France a besoin d'un degré de complexité dans son niveau d'analyse politique.
Philippe Reynaud, pour conclure.
Et elle a besoin d'institutions qui garantissent la solidité de l'État, mais avec une certaine souplesse dans le traitement de la diversité. Pour que les liens soient forts, il faut qu'ils soient souples. Je crois que c'est ça la chose qu'on a de la peine à comprendre en France, où on a une culture qui reste à beaucoup d'égards trop verticale, enfin, me semble-t-il. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur les programmes des uns et des autres, mais ça nous entraîne.
Oui, ce serait un autre sujet, mais vous dites dans la conclusion de votre livre que, avec un scrutin intégrant une assez forte composante proportionnelle, les forces centrales seraient libérées de leur dépendance à l'égard des partis extrêmes, et la Ve République réinventerait ainsi les procédés de la Quatrième, mais elle ne disparaîtrait pas. Pour autant, et en tout cas, merci beaucoup Philippe Reynaud et Jean-Claude Casanova. Je rappelle, Philippe Reynaud, votre livre, L'Esprit de la Ve République, l'Histoire, le Régime, le Système. Il est publié chez Perrin. Et Jean-Claude Casanova, vous dirigez la revue Commentaire, dont le numéro 157 est consacré notamment à un certain nombre de propositions pour la France. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'argent ». Et mon invité sera Fabrice Luchini. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.